Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Comme je disais, vous savez, cette semaine je priais et je disais au Seigneur, tu es ma garantie. Ce que tu dis est ma garantie. Ta parole est ma garantie. Tes promesses sont garanties. Ce que Dieu te dit est garanti. Ce qu'il a fait à la croix est notre garantie. La crucifixion et la résurrection est ta garantie. Dieu a garanti son amour pour toi. Dieu a garanti son amour pour moi. C'est garanti. C'est bon. Il t'aime. Il a validé. Il a garanti son amour et notre destinée. Si tu as reçu une parole de la part de Dieu, tu sais que ton futur est garanti en lui. Si tu as reçu une parole prophétique ou tu as déjà dans les Écritures de magnifiques promesses qui t'est adressées, c'est garanti. Notre espérance en lui est garantie. Dieu a même envoyé le Saint-Esprit, nous dit 2 Corinthiens 1, 22, lequel nous a été aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ça parle de cette garantie que le Saint-Esprit pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 5, il est écrit, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. » Il nous a donné un acompte, le mot « art » ici, c'est le mot « acompte ». C'est le mot « garantie ». Il nous a donné le Saint-Esprit comme garantie. C'est du sûr, c'est du vrai. Le mot marqué ici, les mots marqués de son sceau, ça parle de scellé, ça parle de l'authenticité confirmée. Les arts, ça parle de l'avance, de l'acompte, de la garantie. C'est comme si tu vas acheter un meuble ou une télé ou un frigidaire, des fois, avant de le posséder, tu donnes une garantie, tu payes une partie. Tu donnes une garantie, tu payes et tu es en train de dire, c'est à moi maintenant. C'est réservé. C'est assuré que c'est à moi parce que j'ai payé une partie. C'est comme si Dieu dit en nous donnant le Saint-Esprit comme les arts, comme un acompte, vous êtes à lui maintenant. C'est garanti. On est à lui maintenant. Il a choisi lui-même de payer le prix pour toi. C'est garanti. C'est comme si, avec le Saint-Esprit, il est en train de dire, tu es réservé pour lui. C'est assuré. C'est garanti pour lui. Et donc, lorsqu'on parle de garantie, on parle de c'est réservé aussi. On parle de c'est assuré. On parle aussi lorsqu'on... On dit que c'est garanti, ça parle aussi de l'authenticité. C'est garanti que c'est vrai, c'est authentique, c'est pas un faux. Et c'est ce que cela signifie lorsqu'on parle de garantie. Mais lorsqu'on parle aussi de garantie, on parle aussi d'engagement. Tu t'es engagé à payer la télé, par exemple, si tu en as acheté une. Tu ne l'as pas encore peut-être chez toi, ou tu as peut-être construit une maison, tu as commencé à payer un acompte pour la cuisine... Tu as payé un acompte, je ne sais pas moi, pour le mobilier du salon, mais ta maison n'est pas toute faite, mais le mobilier reste dans le magasin, mais c'est à toi. C'est réservé. C'est garanti. Et c'est ce que ça signifie ici. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Ça parle que ta garantie prouve ton engagement à payer le reste. Lorsque tu garantis, tu montres que tu t'engages. Et lorsque Dieu nous a garanti en nous donnant les arts de l'Esprit, il montre qu'il s'est engagé envers nous. Il ne s'est pas engagé à la légère. Il est notre engagement. Il est notre garantie. Sa parole est ta garantie. Ses promesses sont ta garantie. Il s'est engagé. C'est garanti. C'est un engagement à 100%. Pas à la légère. Mais ma question c'est, si Dieu est ta garantie, est-ce que toi, tu es sa garantie? C'est ça la question. C'est que si Dieu, lui, il s'est engagé et il a prouvé son engagement à 100% pour toi et pour moi, est-ce que nous, nous sommes engagés pleinement avec lui? Vous savez, Dieu nous aime tous ici de la même façon. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous engagés envers lui de la même façon. Mais lui s'est engagé envers chacun d'entre nous de la même façon. Dieu est ma garantie. Dieu est ta garantie. Mais est-ce que toi, tu es sa garantie? Vous savez, le cœur de Dieu, lorsqu'il nous a garanti par la crucifixion, la résurrection, par son esprit, que nous lui appartenons, lorsqu'il nous a réservé, lorsqu'il s'est engagé de la sorte, c'est pour nous garantir qu'on était capable d'avoir une relation forte et intime avec lui. Cela signifie qu'il ne peut pas, y avoir de relation forte et intime sans engagement réel. Le couple, le mari et la femme, s'ils ne sont pas vraiment engagés l'un envers l'autre, ils ne peuvent pas avoir une intimité forte. Il n'y a pas d'amitié forte sans engagement fort. C'est pour ça qu'on ne peut pas être intime avec tout le monde. Parce que si tu t'engages dans l'amitié, cela signifie que tu dis « je suis là pour toi » et « tu es là pour moi » et « je me tiens avec toi ». Je te garantis que mon amitié est là. Ça parle de réciprocité. Un mot que je n'ai pas réussi à dire vendredi. Ça parle de réciprocité. Si Dieu investit en nous, il désire qu'à notre tour, on puisse investir dans la relation qu'il nous a offerte. Parce qu'une relation où il n'y a pas un investissement mutuel risque de réellement périr ou d'être extrêmement fragilisée. Donc Dieu, lui, s'est engagé envers nous. Et il attend qu'à notre tour, on s'engage envers lui. L'intimité commence par l'engagement et non par le sexe. La véritable intimité, selon Dieu, commence par l'engagement. Et il s'est engagé envers nous. Toute relation où il n'y a pas de réciprocité risque d'échouer. Où ça va être une relation comme un mari, une femme qui vit sous le même toit comme deux étrangers. Ils sont là, mais ils ne se connaissent pas. Ils sont là, mais ils se subissent. Ils s'acceptent. Mais il n'y a pas réellement d'investissement l'un envers l'autre. Et ce n'est pas le cœur de Dieu pour nous. Et notre cœur, ici, l'équipe pastorale, ce week-end, c'est de t'encourager à t'investir, à t'engager à 100%, non pas à la légère, dans une relation forte et intime avec Jésus. C'est très important. Pourquoi cela est très important? Parce qu'il ne peut pas avoir de succès dans une relation s'il n'y a pas d'engagement. Toi et moi, on ne peut pas rentrer réellement dans notre destinée si on ne s'engage pas vraiment. Toi et moi, nous ne pouvons pas prendre et posséder l'héritage que Dieu a pour nous si nous nous engageons vers lui à la légère. Ce n'est pas possible. Toi et moi, on ne peut pas parfois avoir le succès ou les victoires que Dieu a pour nous parce que peut-être que notre engagement est trop superficiel. Si tu veux une victoire totale, il faut un engagement total. Et c'est important pour chacun de nous de comprendre cela. Parfois, on ne progresse pas suffisamment parce qu'on ne s'engage pas réellement. Certains ont peur de s'engager. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans le monde, par exemple, les gens ne veulent pas se marier, ils restent ensemble et ils disent juste « Oh, le mariage, c'est juste une signature en bas de la page. » Parce qu'en réalité, ils ont peur de s'engager. Et souvent, je dis « Pourquoi alors tu signes pas si c'est juste une petite signature ?» C'est parce que l'engagement fait peur. C'est tout. Mais il ne peut pas avoir de victoire s'il n'y a pas d'engagement réel. Il ne peut pas avoir de véritable intimité s'il n'y a pas d'engagement réel. Dieu désire qu'on s'engage avec lui parce que lui nous a prouvé qu'il est 100% engagé envers chacun d'entre nous. Je me demande si chacun d'entre nous, on s'engageait un peu plus, qu'est-ce qu'on deviendrait vraiment ? Que deviendrais-tu ? Si ton engagement vers Jésus serait plus fort, si tu t'engageais vraiment à avoir une relation plus solide et plus intime avec le roi des rois et pour sa cause. Vous savez, lorsqu'on ne s'engage pas, il y a des risques. Il y a un danger lorsque notre engagement est léger. Il y a même plusieurs dangers. Ton manque d'engagement peut te coûter cher. Très cher. Nous devons être conscients de ça. Par exemple, lorsqu'on s'engage de manière légère, alors on risque réellement de régresser au lieu de progresser. On ne peut pas progresser si tu n'investis pas dans ta relation avec Jésus. Aucune entreprise n'a eu du succès sans investissement réel. Ceux qui ont conduit cette entreprise ont dû investir, ont dû payer le prix. Aucun athlète n'a pu recevoir la récompense ou la victoire s'il ne s'était pas engagé à se discipliner et à se préparer de manière sérieuse. Il s'est engagé. Que ce soit une entreprise, que ce soit ta famille, que ce soit ton couple, que ce soit une relation, si tu veux réussir, il faut que tu t'engages. Parce que s'engager à la légère, c'est prendre le risque de fragiliser la relation. S'engager à la légère, c'est prendre le risque de devenir tiède. Souvent, lorsque on arrive à Christ, et on voit ça lorsqu'un jeune chrétien arrive à Christ, il y a une différence entre celui qui progresse, et celui qui est un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup je viens, un coup je viens pas. La différence se situe où ? Dans la profondeur de leur engagement. Il y en a un qui décide de construire de manière engagée sa relation avec Jésus. Et il va investir là-dedans, au travers de la prière, au travers de l'école biblique, il va s'investir dans la parole de Dieu pour grandir dans les missions de l'église, dans les groupes d'extravagance, etc., dans le service. Et il décolle. Et l'autre dit, oh, écoute, je viens, mais je visite, moi. Quand vraiment Dieu va venir dans une vision ou un rêve et va me dire, maintenant, c'est bon, j'irai. Mais quand les tempêtes arrivent, il n'est pas assez enraciné. Parce que son engagement est léger. Parce que quand tout va bien, on ne voit pas la différence. Mais quand ça part en vrille, on voit la différence. Donc, manquer d'engagement ou s'engager à la légère, c'est risquer de devenir tiède. C'est risquer de se refroidir. C'est prendre le risque de rétrograder. Et ce n'est pas le cœur de Dieu pour toi et pour moi. Je comprends qu'on peut parfois avoir peur de s'engager, parce que peut-être par le passé, on a été trahi dans un engagement, dans une relation, et ça fait peur. Et en plus, quand tu t'engages, tu prends un risque, c'est sûr. Mais ne pas s'engager, c'est prendre un plus gros risque. Ne pas s'engager avec Dieu, c'est prendre un plus gros risque. D'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci. Quand tu décides de ne pas t'engager, tu t'engages. Quand tu décides de ne pas t'engager, tu t'engages à ne pas t'engager. Cela signifie que quand tu crois que tu n'es pas engagé, tu es quand même engagé à quelque chose. Donc réfléchis bien à la chose à laquelle tu t'engages. Parce que nos choix, nos décisions, nos actes dans lesquels on s'engage façonnent notre vie et notre futur. Donc dans quelle voie t'engages-tu ? Ou dans quelle voie crois-tu ne pas être engagé ? Lorsque quelqu'un dit « je ne veux pas m'engager », c'est qu'il s'engage à ne pas s'engager. Mais il s'engage à quelque chose. Cela signifie qu'on fait un choix. Mais il y a des choix qui nous enracinent dans le roc qui est Jésus-Christ. Et il y a des choix qui nous enracinent dans le sable, meuble. Et Dieu nous aime et nous laisse le libre choix. Donc t'engage pas dans des choses inutiles et vaines. Deutéronome 2,9 nous dit ceci. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Je te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Ici Dieu dit, arrête de t'engager dans quelque chose que j'ai pas dit. C'est inutile, tu vas mener des combats inutiles. Vaut mieux mener le bon combat qu'un combat erroné. Parce que pour mener un combat, il faut des efforts. Il faut de l'énergie. Oui ou non ? Ne sois pas juste engagé dans des choses qui te plaisent. Ne sois pas juste engagé quand tout va bien ou quand... Écoute, je viens à l'église où je veux m'engager parce que là ça me plaît. Mais quand ça ne me plaît pas, moi, je préfère pas m'engager. Ça ne fonctionne pas comme ça. Imagine l'athlète qui dit, bon, oh, ce matin, là, le gars va être champion olympique, et il dit, ce matin, je sens bien. Je vais m'entraîner. Ce matin, je me sens bien. Puis le lendemain matin, il se réveille, il fait, t'es là, le temps dehors est vraiment maf. Il dit, là, c'est... Franchement, là, je ne le sens pas. Aujourd'hui, je ne le sens pas. Je n'ai pas à m'entraîner. Je n'ai pas envie. Et je m'engage quand j'ai envie. Et je m'engage quand j'ai pas envie. Ça marche pas comme ça avec le Seigneur. Amen. Dieu vous aime, frères et sœurs. Ne vous cachez pas derrière votre voisin. Par exemple, d'autres parfois s'engagent, mais ils s'engagent quand ça leur correspond. Notre talent peut camoufler notre manque d'engagement. Je m'engage parce que je sais jouer du piano, par exemple, et quand je joue du piano, je sers à l'église, là je suis bon. Mais si le pasteur me dit maintenant, tu sors derrière le piano et tu vas ranger les chaises, ah, c'est pas mon appel. Hein. Donc je viens à l'église parce que quand je joue du piano, ça me procure du plaisir de mon propre talent, mais quand maintenant il faut servir dans quelque chose qui ne me correspond pas, ah bah écoute Seigneur, je t'aime, mais là, j'ai pas été designé pour ranger les chaises ou faire la clim. Et donc parfois notre talent peut être un camouflage qui cache un engagement superficiel. Oui, il faut s'engager, servir Dieu avec nos talents, mais pas que. Sers Dieu avec tout ce que tu es. Quand ça va dans le temps, quand ça va pas, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire pendant notre courte vie sur terre, même si tu vis 120 ans. De t'investir dans une relation intime, forte et puissante avec Jésus-Christ et son corps qu'est l'Église, en disant « Oui, je vais, Seigneur, te servir quelque part. Je vais m'engager à être quelque part. » Donc fais attention dans les voies que tu choisis de t'engager. Fais attention. Proverbe 20-25 nous dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu. » Quand tu t'engages, comprends que ton engagement peut être un piège. Tu peux t'engager dans une direction qui peut te détruire, pas forcément uniquement envers Dieu, mais lorsqu'on s'engage dans des choses vaines, dans des combats inutiles. L'engagement de Dieu envers nous a été prouvé, éprouvé, approuvé, c'est garanti. Mais Dieu attend de voir si notre engagement envers lui aussi est garanti, s'il peut dire « Henri Paul est ma garantie ». Marie, Sylvia, Jean-Max, Pierrot, c'est ma garantie. Sébastien, ma garantie. Je peux m'appuyer sur eux. Le mot garantir, quelque part, je reprends cet exemple, lorsque tu payes un acompte pour une télé ou un meuble, tu garantis donc que c'est pour toi, tu le réserves pour toi, mais cela signifie que, en quelque sorte que tu as une dette, il faut que tu payes le reste. Cela parle aussi que tu es dans l'obligation de payer le reste. Tu payes une partie de la télé, mais il manque le reste. Tu te dois de payer le reste. Et les enfants de Dieu oublient ça. C'est comme si, écoute, j'ai payé une partie, maintenant j'ai une sorte de dette. Je suis lié par le devoir. Je suis lié par mon engagement. C'est quoi l'engagement ? J'ai donné une garantie. Que je le servirai. Sommes-nous donc la garantie de Dieu en tant qu'Église ? Romains 1, verset 14 nous dit, l'apôtre Paul dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. L'apôtre Paul dit « Je me dois ». Il est en train de dire « J'ai une dette ». Il avait compris qu'il était la garantie de Dieu, que Dieu lui avait garanti le salut. Et lui, à son tour, il voulait être la garantie de Dieu. Il avait reçu un acompte, le Saint-Esprit, et son engagement pour être intime avec Dieu était « Seigneur, maintenant, à mon tour ». Comme tu t'es engagé à tout me donner, je vais m'engager à tout te donner. Et l'Église se doit de manifester Dieu au monde. Ma question, c'est sommes-nous engagés comme l'apôtre Paul à le faire connaître ? Je me dois, moi Steve, de faire connaître Dieu au travers de sa parole. Nous, l'Église, sommes-nous conscients que nous avons donc cette dette, mais Dieu ne nous oblige pas. C'est-à-dire que nous sommes liés par un devoir, celle de le faire connaître. C'est pour ça que notre engagement doit être total pour construire une relation intime avec Jésus. Et mon autre question pour nous, c'est comment vérifier, comment évaluer la profondeur de l'engagement de chacun d'entre nous. Car gloire à Dieu, nous sommes tous ici, pour la plupart, pour la majorité d'entre nous, vraiment engagés envers Jésus. Mais chacun d'entre nous, moi le premier, nous pouvons encore progresser dans notre engagement. Oui ou non ? Donc comment vérifier ou évaluer la profondeur de notre engagement envers Dieu ? Le premier point, c'est que nous pouvons voir la profondeur de notre engagement envers Dieu en regardant la profondeur de notre engagement envers les autres. C'est facile de dire « Seigneur, je m'engage vers toi, en toi, pour toi. » Mais l'Église et les autres, « Ah non, oh, franchement, il y en a qui me fatiguent. » En réalité, Dieu attend de voir comment on s'engage envers les autres. Et notre façon de s'engager envers les autres va révéler notre façon dont on s'engage envers lui. On ne peut pas dire, l'apôtre Jean nous dit « J'aime Dieu, mais je n'aime pas les autres. » L'apôtre Jean dit « Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Parce qu'on a vu tout à l'heure, il ne peut pas avoir de réel engagement si on ne le manifeste pas dans les relations. 2 Corinthiens 8, 5 nous dit « Dépassant toutes nos espérances, ils sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. » Il y a un autre exemple extraordinaire d'engagement envers Dieu, mais au travers d'une personne dans la parole de Dieu, c'est cette femme extraordinaire qui s'appelle Ruth, qui s'est engagée envers sa belle-mère qui s'appelle Noémie ou Naomi en fonction des versions. Et Ruth, pour prouver qu'elle s'engageait envers Dieu, s'est engagée envers Noémie. Et elle dit, dans Ruth 1, verset 15, Noémie lui dit, regarde ta belle-sœur. Elle est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui dit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Ça, c'est un engagement. Belle calinette. Où Noémie dit, hey, va-t'en, c'est bon. Mais Ruth dit, non, je suis engagée à 100%. Et cette femme-là, qui n'était pas une Israélite, est devenue la grand-mère du roi David. Elle est citée dans la lignée de Christ Jésus. Elle qui était une étrangère, mais son engagement l'a grandement récompensée. S'engager envers Jésus-Christ, c'est prédire que Dieu va grandement te récompenser. C'est le meilleur investissement. Lorsque tu t'engages envers Dieu ou tu t'engages envers les autres, engage-toi à donner de la valeur ajoutée dans la relation. Engage-toi à faire grandir dans la vérité. Engage-toi dans une relation non pas pour savoir qu'est-ce que tu peux retirer de la relation, mais engage-toi dans une relation pour savoir qu'est-ce que tu peux donner et rajouter à la relation. Engage-toi dans une relation pour savoir comment tu peux faire en sorte de faire grandir l'autre dans la vérité. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire en tant qu'Église, son peuple. Engage-toi dans la relation en disant comment je peux servir mieux pour que la personne se sente aimée. Pour que le mari dise, je vais m'investir dans ma relation avec mon épouse pour qu'elle se sente aimée. Et je vais faire tous mes efforts pour que mon engagement soit manifesté par des actes afin d'ajouter une valeur meilleure à notre relation. Il en est de même pour la femme, par le service, par l'honneur, par la générosité. Ajoute de la valeur ajoutée à la relation. C'est ce que Dieu attend de son Église. Dieu désire que vous et moi, son peuple, son Église, nous puissions donner de la valeur ajoutée dans les relations les uns envers les autres. Pour que toi, qui es l'Église, parce que vous savez qu'ici, on ne vous encourage pas uniquement à venir à l'Église, mais à être ce que vous êtes vraiment, à devenir l'Église, là où tu es, à être l'Église le lundi, à être l'Église le mardi, à être l'Église le mercredi, à être l'Église le jeudi, à être l'Église le vendredi, à être l'Église le samedi, à être l'Église le dimanche, et venir à l'Église le dimanche. Et le vendredi soir. Mais cela signifie, brille là où tu es. Sois ce que tu dois être. La garantie de Dieu. Vrai fils de Dieu. Vraie fille de Dieu, c'est tamponné, c'est scellé, c'est ma garantie. Il me prouve qu'il est engagé toute la semaine à construire une relation forte. C'est ce que Dieu veut. Engage-toi à donner de la valeur ajoutée dans les relations, mais pas uniquement. En tant que peuple de Dieu, l'Église que nous sommes, nous devons donner de la valeur ajoutée à la société. On doit donner de la valeur ajoutée à la société. C'est ce que Dieu désire. Mais Dieu ne peut pas construire et avoir un impact dans la société si son peuple n'est pas engagé. Dieu ne peut pas construire avec un peuple qui s'engage de manière légère parce qu'il sait que la relation sera frêle. Mais Dieu peut construire avec un peuple qui s'engage vraiment. Avec un peuple qui décide de donner de la valeur ajoutée au monde qui l'entoure. Donc le premier point, on a vu tout à l'heure, comment évaluer la profondeur de notre engagement par notre engagement envers les autres. Et le deuxième point que j'aimerais voir ce matin, c'est comment évaluer la profondeur de notre engagement, écoutez bien ceci, par notre engagement à embellir Dieu aux yeux du monde. Comment ? Prouver à Dieu qu'on est sa garantie. Le deuxième point est le suivant. Par notre engagement à embellir Dieu aux yeux du monde. Comment prouver à Dieu qu'on veut vraiment qu'il puisse compter sur nous à 100% ? En donnant une image de qui il est vraiment à la société. De ses vraies qualités. Il est fort, il est puissant, il est amour, il aime, il brille, il est sage. Ma question, c'est comment embellir un Dieu qui est déjà parfait en beauté? Lorsque, par exemple, on chante et on dit « Sois magnifié, Seigneur !» Lorsqu'on le magnifie, lorsqu'on déclare qu'il est, on est en train de l'embellir dans l'atmosphère par les paroles qu'on déclare. Et Dieu, lorsqu'on l'embellit par nos chants, il est déjà beau, il n'a rien à changer, mais les gens l'entendent, il se manifeste comme on l'a déclaré. Quand on dit « sois magnifié », il est déjà beau, il est déjà magnifié, mais quand on le dit, quand on le prouve par nos paroles et nos actions, alors les gens le voient tel qu'il est. Comment prouver notre engagement envers Dieu ? Par notre engagement à l'embellir aux yeux du monde. En déclarant et en manifestant ses qualités. Il est bon, allons le prouver au monde qu'il est bon. Il est sage, allons prouver au monde qu'il est sage. Il est puissant, allons prouver au monde qu'il est puissant. Allons être le peuple de Dieu que Dieu veut qu'on soit, sur lequel il peut compter. Et il peut construire. Et il peut révéler son identité. Le vrai lui. Nous embellissons Dieu par notre persévérance à faire le bien dans le monde qui nous entoure. Nous devons devenir la garantie aux yeux du monde que Dieu est bon. Amen, c'est bien ça. Amen. 1 Pierre 2,12 nous dit, au milieu des païens, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Qui ? Le monde, ceux qui ne croient pas en Dieu. Comment ils vont remarquer ? Par la bonté des bonnes œuvres. Engagés à faire les bonnes œuvres que Dieu veut, qu'il a préparées d'avance pour nous. 1 Pierre 3,13 nous dit, « Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal ? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous ! » Ça, c'est pas mal, hein? N'ayez pas peur des gens, ne vous laissez pas troubler. L'apôtre Pierre dit, mais soyez zélés à faire le bien. Sois zélé dans la relation avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes collègues, avec ta famille. Même s'ils te font du mal, sois zélé à faire le bien. Ils verront Dieu. Comment ? Au travers de tes bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que nos bonnes œuvres embellissent Dieu aux yeux du monde. On le magnifie, on déclare sa bonté. Et même s'ils ne sont pas prêts pour parfois d'entendre, mais ils voient avec leurs yeux son amour se manifester par des actions. Comment donc évaluer la profondeur de notre engagement ? Le deuxième point, par notre engagement à embellir Dieu aux yeux du monde. Nous embellissons Dieu lorsque nous sommes zélés à faire le bien en tout temps et à nous tenir pour la vérité. Nous sommes zélés et nous embellissons Dieu aux yeux du monde lorsque nous arrivons à faire triompher le bien du mal. C'est-à-dire peut-être tes collègues t'ont critiqué, mais toi tu vas les voir, tu les pardonnes. Peut-être que tu as des ennemis, mais toi, ce que tu fais, c'est que tu les bénis. Comme Jésus a dit, bénissez vos ennemis. C'est ça qui manifeste Dieu et qui embellit Dieu aux yeux du monde. Amen. Donc nous embellissons Dieu lorsque nous faisons, par notre style de vie, toujours triompher le bien au-dessus du mal. Romains 12, 21 nous dit ceci. Ne te laisse jamais, tout le monde dit jamais, dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. C'est pour ça que nous avons besoin des uns des autres. Pour que lorsque on a tendance à mal faire, quelqu'un nous ramène et rajoute de la valeur ajoutée. Il rajoute plus de bien en toi. Et le mal s'efface, tu dis oui. Tu dis, ce gars-là m'énerve, je mettrai deux tapins dans sa tête. Et puis tu as un ami qui arrive, il dit, écoute, deux tapins, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y a mieux. Peut-être qu'il mérite vraiment, mais il y a mieux. N'oublie pas que tu es engagé, tu te dois, nous devons, en tant qu'Église, de révéler qui il est. Comme on voit à l'école biblique, je l'ai déjà dit ici à l'Église, un acte de justice a plus d'impact qu'une multitude de péchés. Sodome et Gomorre, Dieu voulait détruire. Mais il n'a pas détruit Sodome et Gomorre uniquement à cause de leur méchanceté. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de justes. Parce que lorsqu'il discutait avec Abraham, Dieu a dit, mais même s'il y avait 10 justes, j'épargne Sodome et Gomorre. Ça prouve qu'aux yeux de Dieu, pour son cœur, un acte de justice a beaucoup plus d'impact qu'une multitude de péchés. Imagine si nous, son Église, on comprend ça vraiment et qu'on agit vraiment. Quand on pense comme ça, on prouve à Dieu qu'on n'a pas peur d'être contaminé par le monde mauvais qui nous entoure, mais qu'on réalise que sa bonté en nous a plus d'influence que la méchanceté dans le monde qui nous entoure. Et on est confiant, c'est-à-dire qu'on est réellement convaincu et on s'engage avec foi à manifester sa bonté autour de nous lorsque les autres manifestent la méchanceté autour de nous. Et ça fait une différence énorme. Parce que celui qui pense et qui agit comme ça montre qu'il n'a pas peur d'être contaminé par la méchanceté, mais qu'il a réalisé qu'il y a plus d'impact à manifester de la bonté afin de faire en sorte que le monde qui l'entoure soit plus contaminé par la bonté de Dieu. Nous embellissons Dieu lorsque nous attirons dans notre société son intervention en faveur de notre société. Comment attirer l'intervention de Dieu dans notre société? Par la prière, c'est sûr. Comme Abraham a prié. 2 Chroniques 7, 14 nous dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai. » La France, la Réunion, son pays. Donc comment attirer l'intervention de Dieu? Oui, par la prière, pour que Dieu soit embelli dans la société. Mais pas uniquement la prière. Comment attirer l'intervention de Dieu? En manifestant sa présence, en manifestant ses qualités comme on vient de le voir. En manifestant son amour, en manifestant son pardon, en manifestant sa bonté. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, la première fois où les droits de l'homme ont été écrits a été trouvée sur un rouleau qui s'appelle le cylindre de Cyrus. Et Cyrus était cet empereur qui était l'ami de Daniel. Et Daniel était un homme de Dieu tellement extraordinaire qu'il avait influencé le roi Cyrus. Et c'est là que les premiers droits pour l'homme a commencé à être véhiculés. Parce que Daniel manifestait les qualités de Dieu d'une manière extraordinaire. Et Dieu désire que son Église, vous et moi, nous soyons des Daniels pour la société d'aujourd'hui, qui manifeste ses qualités, qui attire sa présence, qui attire son intervention par la prière, mais aussi par son excellence morale. Vous savez, la société dégrade lorsque Dieu commence de moins en moins à intervenir. Si on étudie l'histoire de l'humanité, à chaque fois que la société a eu une excellence morale meilleure, c'est lorsque le Saint-Esprit, ou depuis que Jésus est intervenu, l'homme a commencé à avoir une excellence morale meilleure. Parce que l'excellence morale de la raison est confuse et limitée, mais l'excellence morale de la foi est bien supérieure. L'excellence morale de Jésus est incompréhensible parfois pour la raison. Lorsqu'il dit « Hey, bénis tes ennemis, pardonne, prie, aime, sois zélé pour le bien, même quand on te fait le mal. » C'est une excellence morale que la raison n'arrive pas à appréhender. C'est pour ça qu'on ne peut pas servir Dieu avec la raison. Et que si on veut avoir un impact dans la société, il nous faut la foi. La foi en ses qualités à lui, afin de les manifester nous. Et pour que le monde voit qu'il vit en nous et au travers de nous. Et à attirer son intervention, son feu, sa présence parmi nous. Lorsqu'il y a eu le jour de la Pentecôte, alors il y a eu une excellence morale incroyable. Les disciples étaient battus par les sacrificateurs. Et dans le respect, ils ont juste dit, hey, devinez s'il est préférable de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Ils n'ont pas manqué de respect. Et ils ont continué à prêcher Christ et à pardonner. Et dans l'église de l'époque, ce qui fracassait les gens du monde, c'est qu'ils étaient, ces gens-là étaient vraiment bons. Ils marchaient dans la puissance, ils marchaient dans le pardon, ils marchaient dans le service, ils marchaient dans l'honneur. Le Saint-Esprit était avec eux. Ils amenaient une excellence morale dans la société de manière incroyable, par les bonnes œuvres, par un bon comportement, par la puissance du Saint-Esprit, par le service, par le sacrifice. Pourquoi ? Comment attirer l'intervention de Dieu ? Comment faire descendre le feu de Dieu ? Par un style de vie qui sait se sacrifier. Parce que le feu de Dieu ne tombe jamais sur un autel vide. Le feu de Dieu tombe sur un sacrifice. Et si le feu ne tombe pas dans notre nation, devinez qui est responsable ? Gouvernement ? Président ? Nous ? L'Église avec un grand E. Je ne parle pas uniquement nous, extravagance, l'Église avec un grand E. Mais ici, dans cette famille que nous sommes, nous devons être conscients de cela. Pour changer ça. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 1, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint qui lui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui lui est parfait. » Et là, je me suis dit ce matin dans la prière, en priant pour nous ce matin. Pourquoi parfois certains ont du mal à se renouveler ? Pourquoi parfois certains ont du mal à être renouvelés et au lieu de penser de manière différente du monde, ils se laissent modeler par la pensée du monde et ils ont du mal à recevoir la pensée de la parole de Dieu qui est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas être un sacrifice vivant. Amen. Quel message d'encouragement. Celui qui n'a pas envie de se sacrifier, de sacrifier, non, je ne veux pas moi m'engager, non, moi je ne veux pas sacrifier mon passé, ce que j'ai, non, je ne veux pas, aura du mal à être renouvelé. Ce qu'il n'aime pas. Il pense qu'être un sacrifice vivant pour Christ va tellement lui coûter qu'il ne préfère pas. Il ne préfère pas laisser ses opinions passer. Il préfère penser comme le monde parce que ça lui coûte de ne pas penser comme le monde. Il dit, ben oui, ben écoute, le monde couche partout, et alors et sois dans les temps. N'importe quoi, c'est pas assez moderne. parce que ça lui coûte. Être généreux, n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est difficile d'être un sacrifice. Mais pourtant, ceux et celles qui comprennent que lorsqu'on parle de s'engager à 100%, on est en train de dire soit un sacrifice vivant. En d'autres mots, c'est ça, être la garantie de Dieu. Être un sacrifice vivant pour embellir Dieu aux yeux du monde. Comment embellir Dieu aux yeux du monde ? En étant zélé pour le bien, même quand on me fait du mal. Comment être zélé pour embellir Dieu aux yeux du monde ? En faisant de bonnes œuvres, pour manifester ses qualités, ses actions, son comportement, au travers de mon style de vie, là où je suis, en devenant l'Église, là où je suis. Comment embellir Dieu aux yeux du monde ? En faisant en sorte que son excellence morale soit vu au travers de moi, et que son feu dans ma vie, et que son feu dans ma famille, que son feu dans mon église, attire réellement sa faveur dans la société. Parce que je reconnais que, je suis engagé, et que je suis sa garantie, parce que Dieu est ma garantie. En s'offrant au sacrifice vivant. C'est ça, s'engager de manière totale. C'est-à-dire, même si ça me coûte, Jésus, tu es mort et ressuscité pour moi, aujourd'hui c'est pour toi que je vis. Contre vent, contre marée, contre incompréhension, contre confusion, c'est pour toi. Pas un 2%, 20%, 80%, 90%, à 100%. Pas peur de m'engager pour Jésus. Parce que c'est le meilleur investissement. Parce que le sacrifice vivant pour Jésus est bien moins coûteux que celui qui croit rester en vie lui-même. Il est en train de lui-même se suicider parce que ça le coûtera plus cher plus tard. Bon, je comprends que ce n'est pas forcément un message, on va dire. Mais c'est bon, frères et sœurs, pour nous de comprendre ça. Parce que Dieu veut te récompenser grandement. Et pour être récompensé grandement, il faut s'engager envers Jésus. Il y a un retour sur notre engagement envers lui. Hébreux 10, 35 nous dit ceci. « Ne perdez point cette fermeté que vous avez fait paraître et qui sera bien récompensée. » Ce sera vraiment récompensé. Dieu est en train de dire, mais Dieu n'est pas injuste. Il est notre garantie. Il a donné un acompte solide et sûr. Et pour ceux et celles qui se disent, je veux te donner ma garantie que je vais marcher dans tes voies, pas dans mes voies, dans tes voies. Je veux que tu te prouves, que je veux m'approcher de toi par un engagement solide. Dieu dit, quand il voit un cœur qui commence à se tourner comme ça, il dit, alors la récompense grande est en route. Parce qu'il est notre garantie, ce qu'il dit est sûr. Il veut te bénir, il veut te chérir. Il veut pouvoir dire vrai fils de Dieu, vraie fille de Dieu, aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu. Parce que les qualités de Dieu se manifestent à travers de son Église. S'engager pour Dieu dans la société à rendre Dieu beau. Quand les Églises réprimandent le monde et jugent, accusent, ça fait l'effet inverse. Vous savez, dans la parole, Jésus dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça parle de la loi, et les prophètes de l'Ancien Testament avaient cette tendance à condamner et à démasquer le mal. Et Jésus dit, eux, jusqu'à Jean. Jésus n'a pas fait ça. Il l'a fait juste avec les religieux. Mais avec ceux qui étaient loin de lui, il aimait. Il tendait la main. Il guérissait. Il était l'ami des pécheurs, nous dit la parole de Dieu, pour influencer leur vie, pour les arracher de l'enfer, pour donner la vraie image du Père. Et il a dit, celui qui me connaît le Père. Et c'est la parole de Dieu pour son Église. Celui qui connaît l'Église réellement de Dieu doit connaître Dieu. Arrive à connaître Dieu. C'est pour ça que l'on doit s'engager sur du long terme. Parfois, certains parmi nous, on manque de victoire parce que notre engagement est superficiel. Et je vous garantis, ici dans ce lieu, comme je disais vendredi, encore ce matin, certains d'entre vous, vous êtes à ça d'une percée ou d'une victoire spirituelle. Mais parce que vous avez peur, ou vous craignez, ou vous ne voulez peut-être pas vous engager à fond pour Jésus, alors la victoire vous échappe. Parfois on pense que c'est Satan qui est trop fort. Parfois on pense que, en fin de compte, c'est une malédiction ou je ne sais pas ce que c'est. Mais en réalité, ça peut être parce qu'on sait envers nous-mêmes, envers Dieu, qu'on n'est pas engagé à fond avec Jésus. L'engagement envers Jésus, c'est du long terme. Pour servir la société de cette manière, c'est aussi du long terme. Et je vous encourage, frères et sœurs, dans votre intérêt, pour votre bénéfice, pour qu'il se produise du fruit en abondance sur votre compte, dans votre destinée, dans vos relations, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, pour les générations après vous, pour les générations après nous, à considérer, à peser, à évaluer notre engagement chacun envers Jésus. Et pour s'engager envers Dieu, il faut s'engager envers les autres. Il faut s'engager dans son Église qui est un corps, dans les missions. Il faut s'engager à le rendre beau, à être l'Église, à venir à l'Église, à devenir l'Église et à l'embellir dans la société par les bonnes œuvres, par une qualité morale différente qui manifeste Jésus. C'est ce que Dieu désire que nous, son peuple, nous fassions.